Chapitre 7. Ça vaut ce que ça vaut, mais nous avons un mobile, déclara le superintendant Harper dès qu'ils eurent refermé la porte de Conway Jefferson. Fit Melchett. 50 000 livres, hein? Oui, on a déjà tué pour beaucoup moins que ça.
Sans doute, mais...
Le colonel Melchett laissa sa phrase inachevée. Pourtant, Harper le comprit fort bien.
Vous n'y croyez pas dans le cas présent?
Moi non plus, en fait. Mais ça mérite quand même qu'on y regarde d'un peu plus près.
Oh, cela va de soi.
Harper poursuivit. Si, comme l'affirme Monsieur Jefferson, Monsieur Gaskell et Madame Jefferson sont déjà bien nantis et jouissent d'un revenu confortable, il est peu probable qu'ils se soient livrés à un acte aussi brutal.
Absolument. Leur situation financière devra être vérifiée, bien sûr. Ce Gaskell a une tête qui ne me revient pas. Il a tout de l'arriviste sans scrupule. Mais de là à en faire un assassin...
Oui, et comme je le disais, je ne les pense dans le coup ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, d'après les déclarations de Josie, je ne vois pas comment cela aurait été matériellement possible. Ils ont tous les deux joué au bridge de 22h40 à minuit. Non. À mon avis, il y a une autre possibilité beaucoup plus vraisemblable.
Un petit ami de Ruby Keene?
Oui. Un garçon déçu. Pas trop bien dans sa tête, peut-être. Quelqu'un qu'elle connaissait avant de venir ici. Ce projet d'adoption, s'il en a eu vent, a pu mettre le feu aux poudres. Il s'est vu la perdre. On allait la lui embarquer dans un autre monde que le sien, alors il a vu rouge. Il lui a donné rendez-vous en dehors de l'hôtel, s'est disputé avec elle, puis il a complètement perdu la boule et l'a zigouillé.
Mais comment serait-elle arrivée dans la bibliothèque du colonel Bantry?
Je crois que ça peut s'expliquer. Ils étaient partis, mettons, dans la voiture du garçon en question. Quand il a retrouvé ses esprits et compris ce qu'il avait fait, son premier réflexe a été de se débarrasser du corps. Imaginons qu'il se soit trouvé à proximité du portail d'une grande maison au moment des faits. Il se dit que si on découvre la morte à l'intérieur, tous les soupçons se concentreront sur ses occupants, et que lui, il sera tranquille comme Baptiste. Elle est toute menue, il peut la transporter sans problème. Il a un ciseau avec lui, il force une fenêtre, balance le corps à l'intérieur. Comme il l'a étranglé, il n'y a aucune trace de sang qui pourra le trahir dans la voiture. Vous me suivez?
Oh oui, Harper. C'est tout à fait plausible. Mais comme disent nos amis d'outre-Manche, encore nous faut-il obéir à l'injonction « chercher l'homme ».
Quoi? Ah oui, oh, excellent. Le superintendant Harper applaudit poliment le bon mot de son supérieur, bien que, vu la qualité de l'accent français du colonel Melchett, il n'en eût quasiment pas saisi une syllabe. Pourrais-je vous parler une minute? C'était George Bartlett qui venait d'arrêter les deux hommes. Le colonel Melchett, qui ne raffolait pas du jeune homme et qui était impatient de savoir ce que Flem avait tiré de la fouille de la chambre de la morte et de l'interrogatoire du personnel de service, aboya sèchement
« Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a ?»
Bartlett recula de deux pas en ouvrant et refermant la bouche, tel un poisson dans son bocal. « Eh bien, ce n'est peut-être pas que ce soit important, vous savez, mais je me suis dit que c'était préférable que je vous le dise. Voilà, je ne trouve plus ma voiture. »
Comment ça, vous ne trouvez plus votre voiture?
Avec force bégaiement, Monsieur Bartlett expliqua que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne trouvait plus sa voiture.
On vous l'a volée? Demanda le superintendant Harper.
George Bartlett se tourna avec gratitude vers cette voix plus amène.
Oui, figurez-vous que c'est quelque chose comme ça. Mais enfin, on peut jamais être sûr de rien, vous croyez pas? Après tout, peut-être que quelqu'un l'a seulement emprunté sans penser à mal, vous croyez pas?
Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois, Monsieur Bartlett?
C'est comme qui dirait justement la question que je me posais. Marrant ce que ça peut être dur de se rappeler les trucs, vous trouvez pas?
Pas pour une intelligence normale.
commenta Melchett, glacial.
Vous avez dit qu'elle était hier soir dans la cour de l'hôtel, il me semble, et...
Monsieur Bartlett eut l'audace de l'interrompre. C'est bien ça, le problème. Est-ce qu'elle y était?
Comment ça, est-ce qu'elle y était?
S'étrangla le chef de la police.
Vous nous l'avez affirmé, bon sang de bonsoir.
Ce que je veux dire, c'est que je pensais qu'elle y était. Mais bon, je n'étais pas allé vérifier, vous comprenez?
Le colonel Melchett poussa un soupir et fit appel à toute sa patience.
Essayons d'être clairs. Quand avez-vous vu, vraiment vu, votre voiture pour la dernière fois? De quelle marque est-elle, au fait?
C'est une Minoan 14.
Et vous l'avez vue pour la dernière fois, quand ça?
La pomme d'Adam de George Bartlett tressauta.
J'ai essayé de réfléchir à la question. Hier, avant le déjeuner, je l'avais. Je voulais sortir me balader l'après-midi. Mais, en fin de compte, vous savez comment ça se passe. Je suis allé faire la sieste à la place. Et puis, après le thé, j'ai fait une partie de squash et de fil en aiguille, je suis allé prendre mon bain.
La voiture était dans la cour d'hôtel à ce moment-là?
Je suppose. Je veux dire, c'est là que je l'avais laissée. Je m'étais dit que j'emmènerais peut-être bien quelqu'un faire un tour, vous comprenez? Après le dîner, quoi. Mais c'était pas mon soir de chance, rien à faire. Ah, j'ai pas eu à le sortir, le vieux taco.
Mais autant que vous sachiez, reprit Harper, la voiture était toujours dans la cour.
Évidemment. Je veux dire, c'est là que je l'avais laissée.
Si elle n'y avait pas été, vous vous en seriez rendu compte?
Monsieur Bartlett se gratta la tête.
Je crois pas, vous savez. Les voitures ici, ça défile, et les Minoanes, c'est pas ça qui manque.
Le superintendant Harper approuva de la tête. Il venait de jeter machinalement un coup d'œil par la fenêtre. Pas moins de 8 Minoanes 14 se trouvaient à ce moment précis dans la cour. C'était la petite voiture pas chère de l'année.
Vous n'avez pas l'habitude de la rentrer la nuit?
Demanda le colonel Melchett.
Bof, pourquoi s'embêter avec ça, vous trouvez pas?
Répondit Monsieur Bartlett.
Il fait beau, et puis aller jusqu'au garage, c'est vraiment trop la barbe, non?
Le superintendant Harper jeta un regard au colonel Melchett.
Je vous rejoins en haut. Je vais chercher le sergent Higgins pour qu'il prenne par écrit la déposition de Monsieur Bartlett.
Très bien, Harper.
George Bartlett se prit à murmurer, résigné.
Je m'étais dit comme ça, qu'il valait mieux vous le dire. Ça aurait pu être important, vous croyez pas?
Monsieur Prescott avait fourni à sa danseuse supplétive le gîte et le couvert. Quelle que fût la qualité du second, le premier était le plus mauvais de tout l'hôtel. Les chambres de Joséphine Turner et Ruby Keene se trouvaient tout au fond d'un étroit corridor chichement éclairé. C'étaient deux pièces minuscules, orientées au nord sur la falaise à laquelle s'adossait l'hôtel et meublées d'éléments disparates provenant du mobilier qui avait autrefois représenté le summum du luxe et de la magnificence dans les meilleures suites du lieu. Aujourd'hui que l'hôtel avait été modernisé et les appartements équipés de penderies intégrées, les grandes armoires victoriennes en chêne et en acajou avaient été reléguées dans ces galetas occupés par le personnel ou données aux clients en haute saison lorsque le reste de l'hôtel était plein. Comme Melchett le constata immédiatement, la situation de la chambre de Ruby Keene, idéale pour qui souhaitait pouvoir quitter les lieux sans se faire remarquer, était en revanche particulièrement malencontreuse pour les policiers chargés de faire la lumière sur les circonstances de sa disparition. Au bout du corridor, un escalier dérobé permettait de gagner, au rez-de-chaussée, un autre corridor tout aussi obscur. Là, une porte vitrée ouvrait sur la terrasse latérale de l'hôtel, privée de vue et donc peu fréquentée. De là, on pouvait accéder à la terrasse principale en façade, ou encore descendre par un sentier sinueux jusqu'à la petite route qui, plus loin, rejoignait celle de la falaise. Comme il était inégal, on ne l'empruntait que rarement. L'inspecteur Flem s'était appliqué à cuisiner les femmes de chambre et à fouiller la chambre de Ruby à la recherche d'indices.
Il avait eu la chance de trouver la pièce exactement dans l'état où elle avait été laissée la nuit précédente. Rubikine n'était pas une lève-tôt. Son habitude, à Prifflem, était de dormir jusque vers 10h ou 10h30, puis de sonner pour avoir son petit déjeuner. Conway Jefferson étant intervenu très tôt auprès de la direction, la police avait pris les choses en main avant que les femmes de chambre n'aient investi la pièce. Elle n'était d'ailleurs même pas montée dans ce corridor. À cette époque de l'année, on n'y ouvrait et n'y époustait les chambres libres qu'une fois par semaine.
« C'est déjà ça », fit remarquer Flemme sur un ton lugubre. « Ça veut dire que s'il y avait eu quelque chose à trouver, on l'aurait trouvé. Seulement, il n'y a rien. »
La police du Glenshire avait déjà passé la chambre au peigne fin pour relever les empreintes. Aucune qui fût énigmatique. On n'y avait trouvé que celle de Ruby, de Josie et des deux femmes de chambre, celle du matin et celle du soir. Il y en avait bien deux laissées par Raymond Starr, mais sa déposition les justifiait puisqu'il avait déclaré être monté avec Josie chercher Ruby lorsque cette dernière ne s'était pas présentée pour sa représentation de minuit. Tout un tas de lettres et de papiers divers se trouvaient dans les casiers du bureau en acajou massif au coin de la pièce. Flemme les avait soigneusement examinés sans rien découvrir d'intéressant. Factures, reçus, programmes de théâtre, tickets de cinéma, coupures de journaux, conseils d'esthétique déchirés dans des pages de magazines. Certaines des lettres signées « Lille », apparemment une copine du Palais de la Danse, rapportait de menues histoires et commérages et affirmait que notre Ruby manque beaucoup à tout le monde, que Monsieur Findeson n'arrête pas de demander après toi. Il n'a pas digéré que tu nous quittes. Maintenant que tu es parti, le petit Reg s'est mis avec la grosse May. Barney prend de tes nouvelles de temps en temps. Rien n'a changé. Le vieux ronchon est toujours aussi vache avec nous. Il a passé un savon à Ada parce qu'elle fricotait avec un Jules. Flemme avait soigneusement noté tous les noms mentionnés. Des vérifications seraient faites. Peut-être en sortirait-il quelque chose d'intéressant. Le colonel Melchett approuva, de même que le superintendant Harper qui les avait rejoints. À part ça, la chambre de Ruby n'avait guère de secrets à livrer. Sur une chaise, au milieu de la pièce, gisait la robe de mousseline rose que Ruby avait portée en début de soirée. Dessous, et manifestement balancé là d'un coup de pied négligent, une paire de chaussures à talons hauts en satin du même rose. Une paire de bas de soie extra fins avait été roulée en boule et jetée par terre. L'un des deux était filé au mollet. Melchett se souvint que la morte avait les jambes et les pieds nus. Ça, s'était renseigné Flemme, c'était chez elle une habitude. Par mesure d'économie, elle se teignait les jambes et ne portait des bas que pour danser. La porte de l'armoire était ouverte et laissait voir un assortiment de robes aux couleurs voyantes ainsi qu'une rangée de chaussures en dessous. Il y avait des sous-vêtements sales dans le panier à linge et des rognures d'ongles, des serviettes à démaquiller et des tampons de coton maculés de rouge et de vernis à ongles dans la poubelle. En somme, rien que de très ordinaire. Les faits semblaient évidents. Rubikine était montée en quatrième vitesse, s'était changée et était repartie tout aussi précipitamment. Mais pour aller où ? Joséphine Turner, la mieux placée pour connaître la vie et les amis de Ruby, n'avait pu fournir aucun renseignement. Mais cela, comme le fit remarquer l'inspecteur Flemme, pouvait se comprendre.
« Si cette histoire est vraie, monsieur, celle de l'adoption, je veux dire... Alors Josie devait pousser Ruby à rompre avec toute éventuelle ancienne amie qui aurait pu lui casser la baraque, si j'ose ainsi m'exprimer. Tel que je vois les choses, notre invalide s'emballe pour Rubikine, cette adorable bout de chou, si mignonne, si innocente, si enfantine et j'en passe. Imaginons maintenant que la dite Ruby est un petit copain. Le vieux risque de ne pas apprécier. Ruby doit donc tout faire pour qu'il reste dans l'ombre. Josie la connaît mal. Pas assez pour être au courant de ses fréquentations, en tout cas. Mais une chose qu'elle ne tolérait pas, c'est que Ruby risque de voir le gros lot lui filer sous le nez en poursuivant des relations indésirables. Il est donc tout à fait compréhensible que Ruby, qui, soit dit en passant, me semble être un drôle de numéro, ait gardé le secret sur ses rendez-vous avec cette amie. Il ne fallait surtout pas que sa cousine le sache, sinon Josie lui aurait dit « Halte là, pas de ça, fillette !» Mais vous savez comment sont les filles, surtout les jeunes. Toujours prêtes à fondre devant un dur à cuire. Ruby veut le revoir. Il se pointe ici, se fâche tout rouge en apprenant ce qui se passe et tord le cou à la gosse.
« Vous avez peut-être raison, Flemme, » fit le colonel Melchett, faisant abstraction de son habituelle répulsion pour la déplaisante façon qu'avait Flemme d'expliquer les choses.
« Dans ce cas, nous ne devrions pas avoir grand mal à découvrir l'identité de ce redoutable ami.
« Laissez-moi faire, monsieur !» dit Flemme avec sa morgue habituelle. « Je vais aller chercher cette Lille au palais de la danse et la cuisiner. Nous ne tarderons pas à connaître la vérité. »
« À voir, » se dit Melchett. Flemme le fatiguait avec sa débauche d'énergie et son agitation perpétuelle.
« Il y a une autre personne à qui vous pourriez soutirer quelques tuyaux, monsieur, » poursuivit l'inspecteur. « C'est ce danseur mondain et professeur de tennis. Il doit l'avoir pas mal côtoyé et en savoir plus long sur elle que Josie. Pas possible qu'elle ait été un peu plus bavarde avec lui. »
« J'ai déjà discuté de ça avec le superintendant Harper. »«
Très bien, monsieur. » « Moi, en tout cas, j'ai passé les femmes de chambre au crible. Elles ne savent rien. À mon avis, elles ne pouvaient pas les voir en peinture, les deux danseuses. Elles leur bâclaient le service autant qu'elles pouvaient. La dernière fois qu'une d'entre elles est entrée ici, c'était hier à 19h pour préparer le lit, tirer les rideaux et ranger un peu. Il y a une salle de bain à côté, vous voulez la voir ?»
La salle de bain en question était située entre la chambre de Ruby et celle, un peu plus grande, occupée par Josie. Le colonel Melchett resta muet de surprise devant le nombre de produits de beauté que les femmes pouvaient utiliser. Des rangées de peau, crème de visage, crème démaquillante, crème de jour, crème hydratante, des boîtes de poudre de différentes nuances, en vrac un échantillonnage de toutes les variétés possibles et imaginables de rouge à lèvres, des lotions capillaires, des pommades lustrantes, du rimmel, du mascara, de l'ombre à paupières, une bonne douzaine de vernis à ongles, des lingettes, des tampons de coton, des houppettes usagées, des flacons de lotion, astringentes, toniques, adoucissantes, etc.
« Vous voulez vraiment dire, » murmura-t-il faiblement, « que les femmes utilisent tous ces machins-là »
L'inspecteur Flemme, qui savait toujours tout, éclaira sa lanterne.
« Dans le privé, si l'on peut dire, monsieur, une dame s'en tient à une ou deux teintes différentes. Une pour le jour, une pour le soir. Elle sait ce qui lui va le mieux et s'y tient. Mais ces filles de spectacle, il faut comme qui dirait qu'elles changent de tête. Elles font des exhibitions de danse une nuit, c'est un tango, la suivante, une danse victorienne en crinoline, et puis une espèce de danse apache, et puis bah, elles en reviennent à celle de salon. Alors bien sûr, ça implique des changements de maquillage.
« Bonté divine !» s'écria le colonel Melchett. « Pas étonnant que ceux qui fabriquent toutes ces crèmes et tout ce fourbi fassent fortune. »«
De l'argent facile à gagner !» commenta Flemme. « Voilà ce que c'est. Un peu de réclame et le tour est joué !»
Le colonel Melchett détourna ses pensées du problème de la coquetterie féminine, fascinant et vieux comme le monde, pour s'adresser à Harper qui venait de les rejoindre.
« Il nous reste encore le danseur. Vous vous en chargez, superintendant ?»«
Sans problème. » Tandis qu'il redescendait l'escalier, Harper s'enquit. « Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous a raconté Bartlett ?»«
Au sujet de sa voiture ?» Je crois, mon vieux, qu'il faut le surveiller, ce jeune homme. Son histoire s'en la combine à plein nez. Qui nous dit qu'il n'a pas bel et bien emmené Ruby Keane faire un tour dans cette fichue voiture la nuit dernière ?
Le superintendant Harper était un homme posé, affable, éminemment diplomate. Les affaires où les polices de deux comtés devaient collaborer étaient toujours délicates. Il aimait bien le colonel Melchett et le trouvait compétent dans son rôle de chef de la police. Néanmoins, il n'était pas fâché de devoir mener seul l'entrevue à venir. Ne jamais vouloir en faire trop et trop vite, telle était sa devise. De simples questions de routine pour commencer. Cela rassurait les personnes interrogées et les incitait à abaisser leur garde pour la suite de l'interrogatoire. Harper connaissait déjà Raymond Starr de vue. Beau garçon, grand, svelte, visage avenant dont le bronzage intense faisait ressortir la blancheur des dents, il avait le cheveu noir et le geste élégant. Ses manières affables et son charme le rendaient très populaire auprès de la clientèle.
Je crains de ne pouvoir beaucoup vous aider, superintendant. Je connaissais bien Ruby, évidemment. Elle était ici depuis un mois et nous répétions nos figures de danse ensemble. Mais je ne vois pas grand-chose à en dire. Sinon que c'était une gentille fille et qu'elle n'avait pas inventé la poudre.
Ce sont surtout à ses fréquentations que nous nous intéressons, à ses amitiés masculines.
Je comprends, mais là, moi, je ne sais rien de rien. Il y avait quelques garçons qui lui tournaient autour à l'hôtel, mais rien de sérieux. La famille Jefferson l'accaparait la majeure partie du temps.
La famille Jefferson, oui. Harper s'interrompit, l'air méditatif, et adressa au jeune homme un regard pénétrant. « Qu'avez-vous pensé de ces dispositions, monsieur Starr ?»«
Quelles dispositions ?»«
Vous ne saviez pas que monsieur Jefferson projetait d'adopter Ruby Keene ?» Starr sembla tomber des nues. Il émit un petit sifflement.
« Pas si bête que je me l'imaginais, la petite !»« Décidément, il y a pas pire fou qu'un vieux fou !»
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Difficile de penser autrement, non ? S'il tenait absolument à adopter quelqu'un, le vieux, pourquoi n'a-t-il pas choisi une fille de son milieu ?
Ruby Keene n'a jamais abordé le sujet avec vous ?
Jamais, non. Je voyais bien qu'elle buvait du petit lait, mais j'ignorais pourquoi.
Et Josie ?
Oh, Josie, elle devait savoir ce qui se tramait. C'est peut-être même elle qui avait manigancé toute l'affaire. Elle a oublié d'être bête, celle-là.
Harper acquiesça. C'était Josie qui avait fait venir Ruby Keene. Josie, à n'en pas douter, qui avait encouragé son intimité avec Jefferson. Rien d'étonnant donc à ce qu'elle se soit tellement émue de l'absence de Ruby pour son exhibition cette nuit-là et de l'affolement de Conway. Elle craignait que ses plans ne tombent à l'eau. À votre avis, Ruby était capable de garder un secret.
Comme tout à chacun. Elle ne s'appesantissait pas beaucoup sur ses affaires personnelles.
A-t-elle jamais parlé, une allusion, un détail, d'un ami, de quelqu'un qui aurait ressurgi de son passé et qui serait venu la relancer ici ou avec qui elle aurait eu des problèmes ? Vous voyez sûrement ce que je veux dire.
Tout à fait. Mais, pour autant que je sache, il n'y a eu personne de ce genre. Elle n'en a jamais fait mention, en tout cas.
Merci, monsieur Starr. Pourriez-vous maintenant, je vous prie, me donner votre version précise des événements de la nuit dernière ?
Volontiers. Ruby et moi avons effectué notre tour de danse de 22h30.
Rien d'inhabituel dans son comportement à ce moment-là. Raymond se donna le temps de la réflexion, puis...
Je ne crois pas, non. Je n'ai plus prêté attention à elle ensuite. J'avais mes propres partenaires à faire danser. J'ai simplement remarqué qu'elle n'était plus dans la salle de bal. À minuit, toujours pas de Ruby. J'étais furibard et je suis allé le dire à Josie. Elle jouait au bridge avec les Jefferson et n'avait pas la moindre idée de l'endroit où se trouvait sa cousine. Je crois que ça lui a fait un choc. Je l'ai vu jeter un petit coup d'œil inquiet en direction de Monsieur Jefferson. J'ai demandé à l'orchestre de jouer encore une danse et je suis allé au bureau pour qu'on téléphone à sa chambre. Pas de réponse. Je suis retourné voir Josie qui a dit que Ruby s'était peut-être endormie. Suggestion complètement ridicule, mais destinée aux Jefferson, bien sûr. Elle s'est éloignée avec moi et a proposé que nous montions voir ensemble.
Parfait, monsieur Starr. Et que vous a-t-elle dit une fois seule avec vous ?
Si je me souviens bien, elle était très en colère. Quelle gourde, fulminait-elle. Ça ne se fait pas des choses pareilles, ça va tout gâcher. Avec qui est-elle d'abord ? J'ai répondu que je n'en savais rien, que la dernière fois que je l'avais vue, elle dansait avec le petit Bartlett.
Non, a fait Josie, elle ne serait pas partie avec celui-là. Qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer? Elle ne serait pas avec ce type qui fait des films par hasard.
Un type qui fait des films? Releva vivement Harper. Qui ça?
Je ne connais pas son nom, dit Raymond. Il n'a jamais été client de l'hôtel. Un gars à l'allure plutôt excentrique, cheveux noirs et dégaine d'artiste. Il travaille dans le cinéma, je crois. C'est du moins ce qu'il a raconté à Ruby. Il est venu dîner ici une ou deux fois et a dansé avec elle après. Mais je ne pense pas qu'elle le connaissait bien. C'est pourquoi j'ai été surpris que Josie parle de lui. J'ai dit qu'il ne me semblait pas l'avoir vue ce soir. Il faut pourtant qu'elle soit avec quelqu'un, s'est-elle énervée. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter, moi, au Jefferson? J'ai répondu qu'on s'en fichait des Jefferson, et Josie a dit que pas du tout, on ne s'en fichait pas. Et aussi qu'elle ne pardonnerait jamais à Ruby si elle était partie et avait tout fait capoter. Nous étions arrivés à la chambre de Ruby à ce moment-là. Il n'y avait personne, bien sûr. Mais elle y était passée puisque la robe qu'elle portait en début de soirée était sur le dossier de la chaise. Josie a regardé dans l'armoire et a dit qu'elle avait dû mettre sa vieille robe blanche. Normalement, c'est celle en velours noir qu'elle aurait dû prendre pour notre danse espagnole. Moi, j'étais furieux de voir comment elle m'avait laissé tomber. Josie s'est évertuée à me calmer et a dit qu'elle danserait elle-même pour que Prescott ne nous passe pas un savon à tous. Elle est partie se changer, nous sommes descendus et nous avons dansé un tango, ce qui nous a permis de faire du spectaculaire sans trop forcer sur sa cheville. Il lui a quand même fallu un fichu cran, parce que je voyais bien qu'elle avait mal. Après ça, elle m'a demandé de l'aider à tranquilliser la Jefferson en insistant sur le fait que c'était important. Alors, bien sûr, j'ai fait ce que j'ai pu.
Le superintendant hocha la tête d'un air approbateur. « Je vous remercie, monsieur Starr. 50 000 livres, je pense bien que c'était important, » se dit le policier tandis qu'il regardait Raymond Starr s'éloigner d'une démarche élégante, descendre les marches de la terrasse, prendre au passage un sac de balles de tennis et une raquette. Madame Jefferson, munie elle aussi d'une raquette, le rejoignit et ils se dirigèrent vers les cours.
« Excusez-moi, monsieur !»
Le sergent Higgins, le souffle court, venait d'apparaître à côté de Harper. Celui-ci, brusquement tiré de ses réflexions, sursauta.
« Un message vient d'arriver pour vous du central. Un ouvrier agricole a signalé ce matin qu'il avait vu comme un début d'incendie. Il y a juste une demi-heure, on a trouvé une carcasse de voiture brûlée dans la carrière de Venn, à environ 3 kilomètres d'ici. Il y aurait les restes d'un cadavre calciné à l'intérieur. »
Le visage rude de Harper sembla accuser le coup. Et le superintendant perdit son flegme coutumier.
Quelle malédiction frappe le comté de Glenshire, se prit-il à gémir. Une épidémie de violence.
Ne me dites pas que nous avons par-dessus le marché une nouvelle affaire rouge sur les bras et qu'un maniaque attire des bonnes femmes dans le seul but de les faire cramer dans des bagnoles.
A-t-on relevé l'immatriculation du véhicule?
Non, monsieur. Mais nous pourrons quand même l'identifier grâce au numéro du moteur. Ce serait une Minoan 14.